se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí?
Voilà quelques mesures de tango de Tita Merello qui nous amènera tout à l'heure vers l'ouvrage de Catherine Millet, vers l'Argentine, Jour de souffrance, Pierre de patience. Je veux dire que ces deux titres résonnent bien entre eux ici, aujourd'hui, dans cette émission. Les lecteurs de vos livres, par ailleurs, vont entendre des voix de femmes. C'est Catherine M qui se raconte à nouveau, 7 ans après nous avoir livré sa vie sexuelle, elle nous livre, pourrait-on dire, sa vie mentale. On va voir comment dans un instant. Et vous concernant, Atik Rahimi, ce nouveau roman, votre troisième, permet à son personnage principal, une femme, de prendre la parole face à son mari, inconscient dans le coma, pour dire enfin ce qu'elle pense. Peut-être commencer par là, Atik Rahimi, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous saisir de ce personnage féminin, de lui donner voix?
Écoutez, ça a commencé par une image. Une image que j'ai vécue, que j'ai vue. Il y a 2 ans, j'étais invité pour une réunion littéraire en Afghanistan, dans une ville très renommée par son passé très culturel. Et là-bas, donc, je devais participer à cette réunion, mais une semaine avant mon départ, j'ai reçu un coup de téléphone pour me dire que cette réunion a été annulée à cause de l'assassinat d'une poétesse qui organisait cette réunion. Et pourquoi ? Tout d'abord, on m'a dit que c'est une affaire familiale. Elle était tuée par son mari. Donc, je voulais rentrer en Afghanistan et voir justement, mener mon propre enquête. Et là, je voulais rencontrer son mari. Il était à l'hôpital, allongé comme ça, parce qu'il s'était injecté de l'essence dans les veines.
Pour se suicider.
Pour se suicider. Et quand je l'ai vu comme ça, à l'hôpital, à ce moment-là, je me suis dit, si j'étais une femme, je resterais auprès de lui et je lui cracherais tout ce qu'une femme peut avoir sur le corps. Voilà, c'était cette image-là. Qui était le départ de cette écriture.
Écriture particulière encore aussi pour vous, Atik Rahimi, puisque c'est le premier livre que vous écrivez directement en français, là mm-hmm. encore, donc sans passer par le persan, qui est votre langue natale. Qu'est-ce qui a fait que ce livre-ci marque le début d'une nouvelle écriture pour vous?
D'abord, peut-être parce que si j'écrivais ce livre en persan, ce ne serait pas pareil. Il y aurait une autocensure. Je sais pas, parce que quand même, nous avons une culture quand même, dans laquelle y a l'autocensure est très, très présente. Et évidemment, les mots que j'utilise en persan sont des mots avec lesquels j'ai grandi, j'ai pleuré, j'ai ri. Donc, et il y a aussi des interdits. Aussi dans cette langue. Et je crois que cette langue, le français, m'a permis justement de franchir justement toute cette barrière et m'exprimer d'une manière très libre. Voilà, et tout simplement parce qu'il y a non seulement des barrières comme de la culture religieuse, mais aussi familiale. Vous savez, et moi, ce que je voulais justement, c'est que j'emprunte les deux expressions de Catherine. En Afghanistan, il n'y a pas culture de famille. Il y a plus culture de famille que culture de couple. Et ça, c'est vrai. Donc, tout le sort de couple est toujours déterminé par la culture de famille, par la décision familiale.
Alors, on va voir que dans votre livre, Atikraïmi, la question du corps est essentielle. Alors, le corps de l'homme, on a bien compris, réduit à ses fonctions vitales et dont il faut s'occuper. Puis le corps de la femme, des femmes, mises à mal évidemment par un régime islamique intégriste. Mais pour parler à présent du livre de Catherine Millet, je voulais savoir s'il était vrai qu'en persan, il n'y avait qu'un seul et même mot pour désigner le corps et l'âme.
Oui, alors là, c'est ça qui est le paradoxe dans cette langue. Bon, enfin, déjà, par exemple, il y a deux paradoxes dans cette langue qui m'a toujours intrigué. D'abord, c'est qu'il n'y a pas d'article, il n'y a pas féminin et masculin, donc hein, l'égalité totale. Et deuxième chose, c'est le mot « John » qui signifie à la fois « corps et âme ». Et dans toute la poésie persanophone, les poètes, les grands poètes, ils ont abusé de cette expression, parce qu'il y a des moments où on ne sait pas vraiment, ce poète, il parle du corps ou bien de l'âme. Et puis, il y a des moments, ça donne c'est le même poème. Si vous prenez le mot John au sens du corps, alors ça devient des poèmes érotiques magnifiques. Et si on prend.
C'est une âme.
Voilà. Et comme âme, alors ça devient très spirituel, très mystique.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Catherine Millet, le même mot pour désigner le corps et l'âme?
Ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que vous avez mis en exergue de votre livre une citation d'Artaud qui est absolument magnifique.
Alors, là, Arnaud, il faut la
lire. Oui, je la fais. Parce que c'est vraiment très
beau. Je vais y venir, mais elle est absolument magnifique. Du corps, par le corps, avec le corps, depuis le corps et jusqu'au corps.
Voilà. Et juste
ça vous intéresse quand même.
Oui, moi ça m'arrangerait bien d'ailleurs de parler en persan ou d'écrire en persan, parce que oui, j'aurais pas à parler de psychologie. J'évite le mot âme comme ça, mais chaque fois que je voulais parler de la psychologie, ça me gênait un petit peu, parce que ça traverse tellement le corps. Et c'est tellement programmé par le corps, ça retourne toujours tellement au corps qui somatise éventuellement, etc., que oui, bien sûr, je trouve ça très intéressant.